Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, voilà, nous allons ouvrir un passage de l'évangile de Matthieu et nous allons en effet nous entretenir sur un sujet tellement important, de toujours d'ailleurs, c'est la guérison divine, parce qu'elle est l'expression de l'amour de Dieu, elle est l'expression de ses compassions pour tous ceux qui souffrent. Alors, je vous ai dit Matthieu, nous allons lire dans ce passage, au chapitre 8 et au verset 14. Et je lis ceci, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre, il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Si j'avais intitulé le message, la réflexion que nous partageons maintenant, je l'appellerais tout simplement les fièvres de la vie. De ce court récit ressort quatre sujets de réflexion. La maladie et ses causes, la rédemption qui s'étend à la guérison des corps malades. Troisième point, le rétablissement et ses raisons d'être. Et puis également la fièvre sous tous ses aspects. Fièvre, c'est un dérèglement, une sorte d'échauffement. On pourrait lui donner naturellement plusieurs d'autres significations. Donc, la fièvre sous tous ses aspects, autre forme, autre nature de fièvre. Nous verrons ça ensemble ce matin. Le premier point, c'est la maladie et ses causes. La maladie et toutes sortes de souffrances ont leur racine, nous dit la Bible, dans la chute de l'homme, qui nous est rapporté naturellement et vient de le livre de la Genèse, et l'homme dans son état de péché. Nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme, il nous est donné au chapitre 2 cette pensée, cette satisfaction de Dieu, du Créateur, quand il est dit que Dieu vit ce qu'il avait fait, et il dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. On ne peut pas en dire de même depuis des générations, des siècles et des siècles où le monde connaît la maladie, connaît la souffrance. Elles sont naturellement, ces souffrances, elles sont à la fois le résultat, disons le mot, c'est peut-être un petit peu abrupt, mais d'une malédiction et d'une rupture, surtout d'une rupture avec Dieu. Ce n'est pas le fait de l'homme individuellement, mais nous apprenons de par l'Écriture sainte, mais c'est le fait de toute l'espèce humaine. La nature humaine porte en elle le mal et tous ces maux qui aboutissent inexorablement à la mort. Et nous pourrions peut-être parler d'un germe létal, d'un germe mortel, et naturellement tout cela, c'est l'évidence, puisque depuis toujours, l'homme vit et il meurt. Il meurt de différentes manières, accidentellement, de mort naturelle, peut-être par la vieillesse, et il meurt également très très souvent par la maladie, tout simplement. Et cela est universel. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il nous est dit qu'après la chute de l'homme, Dieu a prononcé la sentence sur les protagonistes, c'est-à-dire le diable, le serpent, particulièrement le serpent, le diable, et puis sur l'homme, sur la femme. Et il dira à la femme tout simplement, tu auras des augmentations de souffrance à travers les douleurs de l'enfantement, malédiction du sol pour l'homme, hein, avec des peines, des difficultés pour subsister, pour exister, pour survivre. Il y a un autre texte qui fait écho à cela, et bien c'est dans le livre de Romains, Paul, aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12. Il est parlé d'hérédité physique et morale, les maux du corps et de l'âme, et également eh bien, les troubles spirituels, le mal également, dans, en effet, l'homme eh bien, il a été touché dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et le texte nous le rappelle, il est bien dit ceci, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire le péché, par un seul homme, parce que l'homme a péché, eh bien le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, nous recevons ce message ou non, mais toujours est-il que le fait, l'évidence, la constatation est faite que s'il n'y avait pas eu cette dégradation de l'homme, cette corruption de l'homme, le péché de l'homme, sa désobéissance, eh bien, il est bien convenu, et la Bible l'affirme, que nous ne connaîtrions pas, eh bien là, la souffrance, la maladie, à quelque niveau de notre être soit-il. Maladie, souffrance, douleur. Voilà le verdict de la Bible qui n'a rien de commun avec les affirmations de la science médicale. Et je voudrais ajouter ceci, parce que la science médicale, elle constate, elle diagnostique, elle soigne, elle soulage. Et nous pouvons dire qu'elle est d'une grande utilité dans la vie des hommes. Et j'irai plus loin, c'est que quelque part, eh bien Dieu a permis finalement, eh bien là, d'ouvrir l'intelligence des hommes, de pouvoir étudier, de pouvoir examiner, de pouvoir observer, et ainsi d'apporter, soit par le biais des médicaments, par le biais de traitements, d'interventions chirurgicales et bien d'autres choses, bien d'autres techniques, eh bien le soulagement à l'humanité. Et il est bien certain, et je voudrais l'affirmer encore avant d'aller plus loin dans cette réflexion de ce jour, c'est que, en effet, l'Évangile, Jésus, Dieu n'est pas contre la médecine. Et je crois que là, nous devons véritablement nous tenir en garde de toutes les exagérations, et nous pouvons, au contraire, bénir Dieu d'avoir donné des hommes dans la capacité de pouvoir soulager les autres. Et ça, c'est important de le dire, et tout prédicateur qui se respecte, prédicateur de l'Évangile, eh bien, n'est pas finalement eh bien là contre. Au contraire, hein, il peut prêcher la voie royale, que l'on appelle le message évangélique de Jésus-Christ, et il peut tout autant eh bien là, prier pour ceux qui sont investis d'une mission de soulagement et de pouvoir accompagner ceux qui sont dans les douleurs. La Bible a le mérite de révéler les racines de la misère humaine. Et nous allons le dire sans embâge, nous pouvons parler de péché et de chute. Mais ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour l'homme, à cause, en effet, de son incrédulité, de ses résistances, de tout simplement, eh bien, son refus, eh bien, là, d'ouvrir sa vie, son cœur à la parole de Dieu. C'est-à-dire, péché et chute, c'est-à-dire les origines, affirmations qui ne s'acceptent pas facilement, mais qui ne peuvent s'accepter que par le don de la foi, c'est-à-dire d'accepter ce que Dieu nous dit et de faire confiance à ce que Dieu nous dit et par la reconnaissance de cette condition de nature pécheresse, condition pécheresse de l'homme et en effet dans un retour vers Dieu. Sinon, c'est de la folie. Et cette folie, eh bien, est appelée d'un nom particulier dans l'Écriture sainte, qui s'oppose à la foi, c'est l'incrédulité. C'est l'endurcissement, finalement, eh bien, du cœur. Insistance des causes spirituelles. Parce que ce sont des réalités supérieures. Il y a dans notre message, dans notre texte que nous avons lu, il y a cette parole particulière qui est mentionné, il est en effet question d'une femme qui par, en effet, eh bien précision qui nous est fournie, eh bien, est la belle-mère de Pierre, une femme qui est malade de la fièvre. Le verset 16 nous dit, et je le relis, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, y compris cette femme qui avait la fièvre, du premier état de maladie jusqu'au dernier, c'est-à-dire la possession. Premier état, donc, nous voyons ce mal qui est stigmatisé par cette déclaration de fièvre, mais jusqu'au dernier état, c'est-à-dire la possession. Alors, je ne voudrais pas dire que tous les malades sont possédés. Loin de là, ce n'est certainement pas le cas, parce qu'il y a des maladies tout à fait propres à la nature humaine, mais la possession, c'est une autre chose. La guérison divine nécessite, eh bien là, en effet, le traitement du corps à travers, eh bien, comme nous l'avons défini il y a un instant. Mais en ce qui concerne la possession, ce n'est plus la guérison divine totalement, c'est la délivrance. Maladie, eh bien, c'est la guérison, la possession, c'est la délivrance. C'est bien faire le distinguo. Autre affirmation de la Bible. La maladie est directement ou indirectement en rapport avec l'action mauvaise, eh bien là, de l'action des mauvais esprits et également de l'action de toutes ces puissances, en effet, diaboliques, démoniaques, toutes sortes de choses. C'est-à-dire, c'est le monde qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose à l'homme. L'homme étant la création de Dieu. Et nous le voyons d'une manière très claire dans les premiers chapitres du livre de la Genèse d'ailleurs. Donc, il y a là naturellement peut-être la contribution des fautes humaines, mais il y a également eh bien, un défi, et nous le voyons dans un livre extraordinaire qui parle avec beaucoup de détails, c'est le livre de Job. Et nous voyons bien qu'il y a là eh bien, la dénonciation d'un monde qui est anti-Dieu, anti-création de Dieu, c'est-à-dire l'homme, pour le rendre malade, le tourmenter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Satan a été l'auteur de la désorganisation de la vie des hommes sur terre. Et j'ai cité naturellement, eh bien là, livre de Job, nous le voyons, eh bien, dans ses premières œuvres, eh bien, sous l'image d'un serpent séducteur et à travers une action particulière qui est le mensonge et qui a donné la désunion, qui a amené dans cette création divine le doute et l'incrédulité. Les malheurs de Job sont là pour nous le montrer, et dans le texte que nous avons lu il y a un instant, il s'agit d'une femme courbée depuis 18 ans. Alors, dans le texte, en effet, qui nous est rappelé, non pas dans Matthieu, mais dans l'évangile de Luc, et il nous est bien dit que cette autre femme qui était courbée depuis 18 ans, et il nous est bien précisé que Satan tenait lié, et tout le reste naturellement du récit. 1000 exemples patents. On peut dire également que même dans le cas de la belle-mère de Pierre, atteinte de la fièvre, Jésus y discerne, et faisons bien attention à ce qui est écrit, il discerne l'empreinte mauvaise d'un ennemi. Et nous voyons que nous avons ce récit similaire dont je viens de citer, que je retrouve naturellement eh bien, la référence dans Luc 4. Il nous est simplement s'étant penché sur elle, sur cette femme, belle-mère de Pierre, Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Remarquons bien que Jésus, eh bien là, est mentionné dans ce rapport de récit, il nous est simplement dit qu'il menaça la fièvre. Menacer une fièvre, voilà quelque chose d'assez étrange, d'assez particulier, qui nous est peut-être difficile à saisir sur le moment. Ou, tout simplement, l'esprit de la maladie qui donnait la fièvre à cette femme. La fièvre, l'infirmité, la douleur ne sont que les manifestations de mots derrière lesquels parfois, je dis bien parfois, se dissimulent certaines réalités spirituelles méconnues, mais pourtant bien réelles. Jésus, et je le rappelle, Jésus menaça la fièvre et il chassa les esprits. Jésus ne s'adresse pas à des courants d'air. Et c'est ça ce que je voudrais souligner. La deuxième proposition que nous avions mis en introduction, c'était la rédemption. Cette rédemption qui s'étend à la guérison des corps et pour les malades qui souffrent de toutes sortes de douleurs. La guérison est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. J'entends par là les soins diligents des hommes, et puis il y a la voie royale dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, guérison, œuvre de délivrance, de secours, de Jésus-Christ à la croix. Si la maladie a pour origine la malédiction encourue par la déchéance de l'homme en Éden et son assujettissement à des puissances spirituelles mauvaises, c'est dans la rédemption, et j'insiste, c'est dans la rédemption ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix, qu'il faut chercher le véritable remède à lui opposer. Rédemption, c'est tout simplement, ça veut dire rachat, racheter. C'est une reprise en main de quelque chose qui, eh bien là, en effet, est défectueux, quelque chose qui a été altéré, quelque chose qui a été vicié, et nous entendons par là, eh bien la santé des hommes. Le verset 17, il nous est dit que Jésus guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Si nous acceptons la pensée d'un destructeur de la vie humaine, à travers, et je le répète, les maux, la maladie, les souffrances, jusqu'à son aboutissement, c'est-à-dire la mort, Dieu a donné la réplique salutaire. Il a donné finalement le pare-feu. Il a donné, eh bien, la réponse à toutes ses préoccupations au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Je fais une remarque. Si tous les maux de la terre avaient leur solution dans des remèdes naturels, dans la raison ou la science, l'humanité depuis longtemps serait affranchie du mal. À une cause de malheur cachée, il faut un traitement d'ordre supérieur à ceux de la nature. Au mal spirituel, il faut un remède spirituel. Et là, dans le cas qui nous intéresse, cette femme dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était courbée depuis 18 ans, tous les malheurs de Job dévoilés, mais également la solution qui est donnée. Et également cette femme dont Jésus va chasser, eh bien, cet esprit, nous voyons que là, il y a quelque chose qu'il faut retenir à un mal spirituel, il y a un remède spirituel. Un principe essentiel à rappeler, qui finalement, eh bien là, couronne toutes les déclarations de la Bible à travers des promesses, c'est la foi. Par la foi et dans la foi. Un mal caché, traitement révélé par le sacrifice expiatoire de Jésus. Et nous pouvons peut-être donner aussi la signification, après avoir donné en ce qui concerne eh bien, la rédemption, maintenant c'est l'expiation, ce sont des mots théologiques, mais néanmoins ils veulent dire quelque chose de bien particulier, de bien précis surtout. Expiatoire, c'est purifier. Expiatoire, ça veut dire réparer. Ça veut dire dans le mot général, eh bien c'est tout simplement guérir. Alors, quel rapport y a-t-il entre la souffrance et le fait de la mort de Jésus sur la croix? Voilà la véritable question. Qu'est-ce qui est véritablement, eh bien là, le correspondant entre, eh bien, les souffrances et puis de ce que, pourquoi Jésus est mort et par quoi et pour qui il est mort? Eh bien, le principe fondamental, c'est la guérison. Si la maladie est la conséquence de la chute, résultat d'une malédiction, la guérison doit faire partie de l'expiation de Christ. Est-ce qui est une bénédiction, un retour à une bénédiction, un retour à un état de santé, à un état de bien-être, à un état finalement, eh bien, de vie normale. Un homme, nous l'avons souligné tout à l'heure, donc nous connaissons naturellement eh bien, son identité, Adam. Adam, par son péché, a perdu toute la race humaine. Un seul égarement, eh bien là, en effet, a amené l'humanité à plonger finalement eh bien, dans la désobéissance, dans le péché, avec toutes ses conséquences de perturbation et finalement, eh bien là, perdre l'humanité. Alors, il y a naturellement eh bien, la contrepartie. Un seul, si Adam était l'auteur des causes, des racines, finalement, eh bien, de la maladie et de tout le reste, un seul également, par sa justice, eh bien, rachète cette humanité et la sauve. Jésus a payé le prix du rachat. Entendons bien ces paroles. C'est lui qui, eh bien là, est l'auteur de toute guérison possible, de toute délivrance, de toute délivrance ou libération de la souffrance. La Bible nous dit qu'il est mort pour notre délivrance et Jésus enlève le mal. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 12, il nous est rapporté 800 ans avant la venue de Jésus et son sacrifice à la croix, il nous est dit que Jésus a porté les péchés de beaucoup d'hommes, donc il y a la notion spirituelle, le péché, et c'est lui qui a porté, en effet, eh bien là, cette condamnation. Il l'a porté, il a pris sur lui, il nous a remplacés. Et dans Ésaïe 53, verset 5, et il nous est dit cette parole extraordinaire, c'est dans ses meurtrissures, c'est dans ses pieds percés, dans ses mains qui ont été eh bien, percés à travers toutes ces souffrances physiques, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous pouvons, lorsque nous sommes malades, eh bien, nous adresser par la prière de la foi, la prière de la confiance totale, eh bien, prier Dieu au nom de Jésus-Christ et de pouvoir dire, eh bien, parce que tu as pris ma place, eh bien, moi je peux aujourd'hui espérer dans tes promesses quand tu me dis, quand je sais que c'est à cause de tes souffrances que je peux être guéri. Alors il a souffert pour nous, que pour que nous ne souffrions plus, il a porté nos péchés, le côté spirituel et le côté physique, pour que nous ne péchions plus d'une part, il est mort pour nous rendre la vie, pour nous rendre la force, la vitalité, pour nous rendre la santé, qu'elle soit physique et morale. Voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est le rétablissement et ses raisons d'être. Pourquoi nous sommes guéris? Pourquoi Dieu veut-il nous guérir? Et dans quel but veut-il nous guérir? Le but divin, naturellement, de notre rétablissement, rétablissement des malades, est clairement exposé au verset 15. Il nous est dit que Jésus toucha sa main à cette femme, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Remarquons bien, dans cette petite phrase, il y a là tout un message d'espérance. Nous remarquons que le premier usage que cette femme fait de sa santé retrouvée est de servir Jésus, et elle le servit. Dieu, en nous guérissant, a en vue notre bien le meilleur. Toutefois, il veut que nous en tirions profit sur plusieurs aspects. Le premier, d'abord, que nous employions nos forces nouvelles rétablies à sa gloire et pour sa cause. L'objet d'une délivrance miraculeuse, nous devenons à ce moment-là des témoins et nous pouvons confesser que j'étais malade, j'ai prié Dieu, je lui ai fait confiance et il m'a guéri. Nous devenons donc des témoins et un témoin, c'est celui qui peut parler, c'est celui qui peut dire, c'est celui qui peut attester et à ce titre, en faire profiter les autres. Garder égoïstement un don n'est pas normal et nous pourrions peut-être souligner que c'est tout simplement de l'ingratitude, surtout que, quelle que soit la maladie, surtout si elle est grave, surtout si nous avons été arrachés à la mort, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas peu de choses, c'est quelque chose de tellement important et nous pouvons, eh bien par des occasions que Dieu nous donne, des opportunités peut-être de pouvoir dire à quelqu'un qui est là aux prises avec des maladies très graves et mortelles, de dire mais moi je suis passé par là, j'ai prié Dieu et il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a guéri. Et puis, c'est vrai pour d'autres délivrances, hein, pour un alcoolique qui, eh bien là est délivré de son addiction, eh bien peut dire à peut-être à un autre, eh bien voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et puis on peut le multiplier à l'infini parce que les souffrances sur cette terre, elles sont, eh bien on ne peut pas les compter. Celui qui a fait l'expérience de la guérison divine a pour mission de faire connaître les réalités évidentes de la puissance de Dieu au travers l'Évangile. C'est une puissance de salut, nous dit Paul dans Romains, puissance de salut pour quiconque croit, seulement pour quiconque croit. C'est une puissance de salut, une puissance de délivrance. La guérison des corps doit admettre aussi l'éveil sur une autre guérison plus profonde encore, celle des âmes. Dieu nous guérit dans nos corps souffrants, nos corps dégradés, nos corps douloureux, nos corps qui sont atrophiés, nos corps qui sont paralysés, qui sont là et bien plus en état de fonctionner normalement. Et il y a aussi un autre but du fait du geste de guérison de Dieu en nous guérissant, c'est de nous interpeller dans nos âmes. Alors ça, c'est l'identité cachée de l'homme. C'est l'identité que l'on ne voit pas. On parlait des corps, ça se voit. Hein, ça, c'est quelque chose qui est visible. Mais là, il s'agit de, eh bien, tout simplement, de la guérison des âmes. Et combien de gens, à travers la dépression, à travers l'anxiété, à travers des peurs incontrôlables, à travers, eh bien, toutes sortes d'effrois, toutes sortes de mal-être, de malaise, des situations qui n'ont jamais été réglées, problèmes, eh bien, qui ont un caractère moral, qui ont un caractère psychologique, à travers, là, des violences reçues avec un refus de pardon à ceux qui nous ont vraiment offensés, qui nous ont fait du mal, il y a besoin d'une guérison d'âme à ce moment-là. Combien de gens, eh bien, dans notre monde aujourd'hui, recourent à toutes sortes de psychiatries, toutes sortes de psychologie, alors elles ont peut-être leur raison d'être, mais celui qui peut nous guérir complètement et puis nous apporter à la place du malheur intérieur la joie et la paix et l'épanouissement, eh bien c'est aussi à dire. L'expérience de la guérison produit une conviction intérieure. Voilà, c'est-à-dire que c'est le déclenchement « je crois ». Alors il y a cette démarche de pouvoir dire « je crois » et de pouvoir le confesser, de le croire réellement et de le vivre. Alors c'est une conviction quant à celui qui en est l'auteur, et l'auteur c'est Jésus-Christ. Inutile d'aller disperser notre foi dans toutes sortes de religiosités, dans toutes sortes de superstitions, dans toutes sortes là d'éléments prétendraient ceci et cela, parce que c'est véritablement dilapider notre confiance. Mais c'est seulement dans la personne de Jésus-Christ où nous nous adressons à Dieu et finalement, eh bien, nous attacher ensuite, parce que nous avons été touchés, parce que nous avons été guéris, nous attacher à la personne de Jésus. Et ça, c'est l'image de ce, en effet, aveugle, qui s'appelle Bartimée. Nous le retrouvons, eh bien, dans l'évangile synoptique. Et nous nous apercevons que cet homme a fait l'expérience alors qu'il était, aveugle. Eh bien, il nous est dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il a vu sa guérison, lorsqu'il a reçu sa guérison, il était aveugle. Alors là, après, il a vu autre chose, naturellement, il a vu comme tout le monde. Et il nous est dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Pour un aveugle, suivre Jésus, c'était vraiment la preuve, eh bien, qu'il y avait eu quelque chose de miraculeux qui s'était passé. Et nous voyons qu'il s'est attaché à Jésus, à la personne de Jésus, puisqu'il nous est dit qu'il le suivit dans le chemin. Et puis, nous avons également, eh bien, là, un quatrième point sur lequel je vais simplement conclure, c'est la fièvre sous tous ses aspects. Et nous avions cité tout à l'heure en introduction que c'était une forme de dérèglement de notre corps, c'est thermique, hein, et puis naturellement je ne saurais l'expliquer, moi je ne suis pas médecin, mais toujours est-il que c'est symptomatique de quelque chose. Hein, d'une infection, il y a quelque chose naturellement eh bien, qui là dévoile, certainement, ce que j'ai dit, ce que je répète, eh bien là, quelque chose qui ne va plus, un dérèglement. Alors, le quatrième point, c'est tout simplement la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il nous est parlé dans Luc, vous pourrez retrouver dans l'évangile, le même texte dans l'évangile, il nous est parlé d'une violente fièvre. Alors, fièvre physique, naturellement, et ceux qui ont connu ce que pouvaient être quelquefois des montées de fièvre, hein, 40 et peut-être plus, on n'est pas très très en forme, hein, naturellement, hein, ça c'est quelque chose. Alors, violente fièvre, nous est-il dit. Mais il est d'autres natures de fièvre dont les hommes ont besoin d'être délivrés, ont besoin non pas seulement d'être soulagés, mais véritablement affranchis. Tout aussi dangereuses, sinon plus. Et je voudrais en citer simplement quelques exemples, mais rapides. On sait que la fièvre, eh bien, elle excite, elle dénature, même jusqu'à notre pensée. Hein, elle peut parfois avoir des allures de délire. Hein, elle peut halluciner, et puis bien d'autres choses. Et c'est une occasion, finalement, d'une surchauffe qui peut être fatale. Dans certains cas, eh bien, il y a des fièvres qui tuent, si elle n'est pas soignée vigoureusement. Alors, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une petite chose. Ce type de fièvre affecte non pas la vie physique, hein, nos organes, notre corps, mais non reconnue comme anomalie, et souvent nous nions ce genre de fièvre, et là nous pouvons parler alors de fièvre des affaires. Alors vous allez me dire, c'est pas... Hein, apparemment c'est pas forcément très dangereux, mais ça accapare toute la vie. La fièvre de la passion, On le voit dans les dérèglements, on le voit dans les violences, on la voit également, et bien là, à travers toutes sortes de choses immorales, on peut le dire. La fièvre de vivre, alors c'est un petit peu voilà ce que nous avons dit. Et puis la fièvre des convoitises, c'est-à-dire que l'homme ou la femme, peu importe, quand il est saisi finalement de la fièvre de la convoitise, alors plus rien ne compte. Il n'y a plus que sa passion, il n'y a plus que ce qu'il veut, ce qu'il désire. C'est véritablement l'explosion complète et totale de l'égoïsme, de l'ego en tous les cas. Cette agitation intérieure, en matière de religion aussi, et là elle porte des noms, elle porte des noms de fanatisme, et elle peut dégénérer à la folie. Et puis, une dernière chose en conclusion, toutes ces espèces de dérèglements, si elles ne sont pas jugulées, finissent toujours dans la démesure, dans l'exaltation, et pour se terminer dans l'effondrement. C'est toujours eh bien là une faillite. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà, croire au mensonge, douter de la parole de Dieu, ayant été prévenu, on s'aperçoit que ça finit par des faillites, ça a fini par une faillite de l'humanité, et puis un état de dépression permanent, parce qu'une fois que la fièvre tombe, une fois, si elle n'est pas guérie, comme nous l'avons dit, alors à ce moment-là, eh bien, ça finit par souvent en catastrophe. La conclusion serait la suivante, c'est le texte, tout simplement, que je reprends. Il toucha sa main à cette femme et sa fièvre la quitta. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il nous est donné l'autre version, une autre présentation. S'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Remarquez bien ce verbe, et la quitta. Nous voyons qu'elle est délivrée, elle est guérie. Jésus tend sa main et offre sa puissance libératrice. Et c'est à nous, lorsque nous avons saisi, lorsque nous en prenons conscience, c'est à nous, avec cette démarche de confiance et de foi, de prendre et de saisir, eh bien, dans la foi, la main de Jésus. Alors, c'est une vue de l'esprit, naturellement, mais c'est un saisissement. C'est quelque chose qui nous est amené à déclarer de tout notre cœur, sans douter, avec eh bien ces promesses qui l'accompagnent, quand il est dit « Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, eh bien, par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est une promesse essentielle. Et de pouvoir, lorsque je suis en souffrance, au désespoir, lorsque peut-être l'effroi de la mort frappe à ma porte, alors à ce moment-là, c'est vers Jésus que je dois me tourner. C'est vers Jésus et ses promesses, parce que nous savons que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a payé le prix pour nous. Il a donné sa vie pour les coupables. Alors la voie divine, elle est royale. Guérison et guérir, le mot guérir est cité environ 130 fois, plus de 130 fois dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est le désir absolu de Dieu et c'est un acte venant de sa part, un acte d'amour de sa part pour tous les souffrants. Et je terminerai tout simplement par l'interpellation que Jésus adresse dans le chapitre 5, si ma mémoire est fidèle, dans l'évangile de Jean, quand il voit un homme à la piscine de Bethesda qui est malade depuis 38 ans, ce n'est quand même pas une petite affaire, il est paralysé depuis 38 années, et la première question que Jésus va poser à cet homme, il lui dira « Mais veux-tu être guéri ?» Alors, dans la simplicité peut-être du langage de cette prédication, une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur ce matin s'adresse à tous ceux qui sont en souffrance, quelle que soit la nature de leur souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale et psychologique, qu'elle soit spirituelle à travers toutes sortes de tourments de l'esprit, de la pensée, de la conscience. Alors une chose qui nous est rappelée ce matin, à travers ce petit texte, tout simple, facile à comprendre, où le Seigneur vous dit, où le Seigneur dit à tous, voulez-vous, veux-tu être guéri? Parce que le Seigneur a mis finalement, eh bien là, tout à notre disposition. Il suffit de le croire, il suffit de le serrer dans notre cœur, il suffit de prier simplement une personne, la personne de Jésus. C'est pas la peine de multiplier avec des vaines redites, ça ne sert à rien. Jésus le dénonce, cette façon, cette démarche, cette posture religieuse. Mais à ce moment-là, eh bien, de pouvoir lui répondre, mais Seigneur, je crois, donne-moi la foi, augmente ma foi. Parce que le Seigneur, eh bien, est là aussi pour que notre foi puisse grandir et être en capacité de saisir ses promesses. Alors, que Dieu nous bénisse ce matin. Et je voudrais exprimer aussi toute notre compassion pour ceux qui, peut-être dans leur lit de maladie, peut-être dans leur solitude, peut-être dans leur désespoir, là sont profondément malades physiquement et moralement, parce que la maladie, eh bien, entraîne un dérèglement général souvent dans notre vie. C'est pas seulement physique, à travers les douleurs, mais c'est bien d'autres choses également. Alors le Seigneur vous dit, mais veux-tu croire? Veux-tu être guéri? Parce que c'est certainement le jour où Dieu veut nous parler et nous dire qu'il est là, que nous ne sommes pas seuls et qu'il a tout préparé, qu'il a préparé le remède, qu'il a préparé la solution et qu'il a préparé la réponse. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle, eh bien, un nouveau message, une nouvelle prédication.